Interview.
2 et c'est l'heure de l'interview avec au studio Laetitia. Bonjour.
Bonjour.
Laetitia, vous êtes ici pour nous parler de votre activité, les princesses sauvages. Vous nous parlerez quelles sont celles-ci et de leur présence aussi au marché de Die pour les marchés des producteurs bio et locaux. Et Guilhem, pareil, vous avez l'entreprise Floritiem. Et vous proposerez aussi des plantes aromatiques et médicinales avec une déclinaison en huiles essentielles ou eau florale. Alors, pour vous, qu'est-ce que représente ce marché de Die, le marché des producteurs bio et locaux?
Le marché du lundi, pour nous, c'est une petite parenthèse dans la période estivale, donc qui est l'occasion de, à la fois... amener des produits bio et locaux aux habitants du Diwa, et en venant un peu diversifier l'offre de marché existant, puisqu'il y a déjà 2 marchés de plein vent à Die. Et du coup, ça vient un peu introduire la semaine, puis ça se passe le lundi. Et donc, c'est l'occasion pour les Diwa de venir faire leur marché, remplir leur panier, et aussi de partager un petit moment convivial et festif, puisqu'on a fait des animations musicales, enfin, on fait venir des artistes qui jouent de la musique. Donc, et en plus de ça, il y a quand même du passage l'été. Donc, c'est l'idée de venir animer un peu cette place, lui donner un peu de convivialité. Et donc, moi, à titre personnel, c'est un de mes principaux débouchés, quoi. Donc, j'en attends beaucoup.
On peut peut-être rappeler aussi l'historique de ce marché des producteurs locaux et bio.
Ouais. Au tout début, en fait, c'était un marché. Il s'est créé l'année du Covid, un peu dans un moment où les producteurs avaient un peu des soucis de débouchés, quoi. C'était le moment où les confinements, etc. Et donc, à l'origine, il a été fondé autour de la ferme de Ruinel, dans le vallon de Chapia, à l'entrée du vallon de Chapia, derrière la déchetterie. Et par un petit collectif, moi, que j'ai rejoint l'année d'après. Mais il a un peu son ADN, un peu une forme de d'auto-organisation et de réponse à des situations un peu imprévues. Et puis le besoin aussi de partager et de ramener un peu de la vie, de la fête dans un temps qui n'était pas forcément très facile. Et c'est t'en diras peut-être plus les types, c'était à l'origine, toi, je crois. Et c'est dans la deuxième, c'est en 2023, la suite de l'arrêt de l'activité de Simon, qui était maraîcher et qui accueillait le lieu, qu'on s'est rapproché de la mairie de Die et avec qui on a commencé à co-organiser cet événement-là. Et donc ça va faire la 4e édition cette année et on espère qu'il y en aura bien d'autres.
Comment s'est établi le contact auprès de tous ces producteurs qui se réunissent sur ce marché? À l'initial, il y avait peut-être une connaissance des personnes entre elles pour pouvoir monter ce premier marché à Chapia, donc à l'époque.
Oui, je dirais que l'initiative, elle vient beaucoup de Simon, qui était maraîcher donc à l'époque, et qui a créé ça sur son lieu. Et du coup, des connaissances qu'il avait autour de lui, il y a eu beaucoup aussi Christelle au départ, qui fait des sorbets et qui a été partie prenante de la première équipe, qui est toujours de l'équipe d'ailleurs, qui fait des sorbets, Christelle. Donc Christelle, Simon, il y avait Frisou aussi à l'époque qui faisait des hydrolats et des huiles essentielles. Enfin, tout ce petit monde, en fait, s'est retrouvé confronté, oui, à la période du Covid, de se dire mais comment on va continuer à vendre nos produits, comment on continue à rencontrer des gens. On était tous un peu confinés, pas trop le droit de sortir, enfin bon. Et du coup, ils ont mis ça en place et c'est vrai qu'à l'époque, ça a eu un franc succès. Les gens étaient contents de venir chercher leurs produits locaux au plus près et en plein air.
Je me souviens, je ne sais pas si c'était votre initiative, mais Place de l'Évêché, il y avait aussi une distribution de denrées de produits bio et locaux avec... sous l'espace jaune, il y avait une remise bien fraîche pour stocker. Ça n'a rien à voir avec vous. C'était une distribution de paniers alimentaires.
Ça devait être peut-être les jardins nourriciers qui avaient des lieux de distribution à Die, effectivement, à l'espace social.
C'est pas la même chose, mais c'est les copains.
D'accord. Donc, en tout cas, il y a toujours eu un moyen de s'organiser face à ces adversités. Alors, on peut peut-être aussi parler de ce qu'on va pouvoir y trouver sur ce marché. La liste est plutôt longue. Alors, c'est essentiellement des productions locales, comme on l'a déjà dit, avec aussi des produits transformés ou des produits d'élevage. Alors, est-ce qu'on peut les citer quelques-uns pour donner envie aux auditeurs Et puis, peut-être au-delà même des touristes qui viendront l'été. J'imagine que c'est aussi une grande part de clientèle, le tourisme estival.
C'est aussi une grosse part de la clientèle de juillet-août. On va dire qu'au mois de juin, on a surtout les Diois qui viennent aussi profiter du moment, ce moment festif, se poser. Il y a des assiettes aussi à manger sur place qui sont faites à partir de nos produits qu'on trouve sur le marché. Donc on trouve beaucoup de Diois qui viennent juste profiter du moment aussi, boire un coup ensemble et profiter. Et à partir de mi-juillet, oui, jusqu'à fin août, il y a beaucoup de populations touristiques. Donc... tu veux que j'enchaîne sur les producteurs. Donc en maraîchage, on va retrouver Benjamin, de la ferme des Jeunes Pousses, Valentine, qui est sur Pontet, elle, et la ferme d'Anana aussi, avec Anaïs, qui est sur Die. Donc on sait trois maraîchers qui se partagent le... qui essaient de fournir pour que tout le monde ait de quoi... assez de légumes et de légumes à mettre dans son assiette. Sinon, on retrouve le pain de Barsac, avec Dominique et Théo, les œufs et poulets de Dominique, les cocottes de Dom, c'est ça, Guillaume ?
C'est ça, de Vassieux.
Voilà, de Vassieux.
Ah oui, ça vient de Vassieux en Vercors.
Oui, c'est le plus loin qui vit, je pense.
Les œufs et les volailles, ils vendent aussi des...
œufs et volailles, oui.
Vous connaissez la race de poule ou de poulet ?
Eh bien, c'est les grises du Vercors. Voilà, on aura sans doute quelques fruits aussi à partir de juillet. De manière occasionnelle, c'est avec Joël, la ferme de Beautiful. Donc lui, ça dépend aussi de ses récoltes. Tous les ans, en ce moment, c'est un peu compliqué avec le gel et la grêle. Donc là, pour l'instant, tout va bien pour lui. On espère, on croise les doigts parce que ses fruits sont très bons. Qui sera avec nous à partir de juillet. On a aussi les liqueurs et petits fruits de Gueule des Bois, de Pierre, à Minglon. Donc petits fruits rouges et puis il a quelques prunes aussi et puis c'est bonne liqueur.
Issue de cueillette ou de production ?
Pour Pierre ?
Oui, les petits fruits.
Ah oui, c'est petits fruits. Oui. Il fait tout et ses liqueurs, c'est à base à la fois de plantes et de fruits.
Et qu'il distille lui-même.
Voilà.
Entre vous qui produisez donc des huiles essentielles ou des eaux florales, et puis d'autres qui proposent aussi donc, ces liqueurs, et parfois autre chose. Chacun est autonome dans cette cuisson, dans cette préparation d'huiles essentielles, ou alors il y a une mutualisation de moyens parfois ?
Alors, pas avec Pierre. C'est des distillations, effectivement. Ça se fait sur des alambics à Fenu. Et ça mobilise un peu les mêmes principes d'extraction. C'est de la distillation un peu différent. Hein, moi, à la vapeur. Donc, c'est la vapeur qu'entraînent les molécules des plantes. Mais il n'y a pas trop de mutualisation entre Pierre et moi. Parce que lui, il est plutôt sur, du coup... la production d'alcool. Moi, c'est quand même un peu le même outil, l'alambic, mais après, c'est quand même des produits complètement différents et des réglementations aussi complètement différentes.
Et puis, je pense que chaque, comment on appelle ça, alambic, a fini par avoir ses propres odeurs, ses propres parfums qui pourraient être nocifs à d'autres fabrications.
Ouais, après, ils sont nettoyés entre chaque plante. Ouais. Donc, il y a un nettoyage à l'eau puis à la vapeur. On dit que c'est une passe à vide, en fait. On nettoie, on fait fonctionner l'alambic sans rien dedans et sans refroidisseur pour que la vapeur vienne nettoyer les circuits. Donc, non, il n'y a pas trop d'imprégnation de l'alambic. Il prend une petite patine avec le temps, mais plutôt à l'extérieur et pas trop sous forme d'odeur.
On peut peut-être revenir un peu sur cette fabrication d'huiles essentielles. Quelles sont ces étapes pour les concevoir, les produire ?
Du coup, de la parcelle à la bouteille, il y a du coup une étape en fonction des plantes. On les distille soit fraîches, soit après un préfanage pour laisser s'évaporer un peu l'excédent d'eau présent dans la plante qui pourrait amener des phénomènes d'hydrolyse après dans le moment de la distillation. Et derrière, le principe de la distillation à feu nu, c'est qu'on fait bouillir de l'eau en fait sous une colonne de plantes, et c'est la vapeur qui est produite qui entraîne les molécules des plantes et qui après recondensée dans un refroidisseur qui amène du coup un distillat dont on va séparer après dans un essentiel, l'huile essentielle qui surnage de l'hydrolat qui est plus dense, plus lourd. Et voilà, c'est un processus assez ancestral, hein. Je crois que les premiers alambics, ils étaient trouvés en Iran, enfin à l'époque, dans l'Empire perse, hein. C'est les premières traces de distillation qu'on trouve. Donc aujourd'hui sur le territoire du Diois, il y a toute une diversité de producteurs, d'échelles de production, des gros chez Nateva ou la distillerie des Quatre-Vallées, à des plus petits comme chez moi, en passant par un peu toutes les tailles. Hein. Il y a plein de...
Par rapport à ta question sur la mutualisation, c'est vrai qu'en plante, dans la petite équipe que l'on est, par exemple en ce moment on est en pleine période de récolte de roses. Donc en effet, chacun a son entreprise, mais quand il y a des manques de plantes chez l'un ou l'autre producteur, il y a beaucoup d'échanges qui se font à ce niveau-là. Donc, quand on a trop de roses, par exemple, il y a un ou une collègue qui n'en a pas assez qui vient cueillir, et vice-versa. On peut manquer de bleuets ou avoir raté un semis, et du coup, on peut compter sur les collègues, et ça, c'est appréciable aussi. Il y a une belle entente à ce niveau-là.
Guilhem, par rapport à cette distillation, donc, il y a les huiles au-dessus et l'hydrolat en dessous, donc par flottaison. Cet hydrolat, c'est ce que vous appelleriez aussi eau florale, en somme.
Oui, tout à fait. C'est le nom qu'on retrouve beaucoup dans le commerce. Après, c'est la même chose. Des fois, moi, je les distingue pour préciser que l'eau florale, souvent, moi, dans la gamme, c'est les hydrolats de fleurs. Donc, c'est quand je mets que de la fleur dans la colonne de distillation. Mais en vrai, on les assimile facilement, hydrolat et eau florale, effectivement. Oui.
Et Laetitia, vous-même, donc, avec les princesses sauvages, pourquoi ce titre, d'ailleurs ?
Oui, pourquoi ce titre ? Parce qu'au tout début de l'activité, je cueillais essentiellement en sauvage. Et que pour moi, les plantes, c'est des princesses. Et que, vous voyez, voilà, c'était le fait de cueillir uniquement en sauvage. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que vu la quantité de plantes qu'il fallait, il y a certaines plantes, il fallait les mettre aussi en culture si je ne voulais pas y passer un temps de fou. Donc voilà, bon, les princesses sauvages et cultivées.
Et Laetitia, vous parliez justement donc, des roses. C'est la saison en ce moment.
Oui.
Qu'est-ce que vous en faites de ces boutons de fleurs ? Est-ce qu'il y a un processus ? Est-ce qu'on récupère juste une partie de la fleur ou alors tout passe à la cuisson ?
Alors, du coup, on a des méthodes différentes, Guilhem et moi. Moi, je prends uniquement les pétales de rose. Donc, j'enlève le cœur, j'extrais, je prends juste les pétales et je coupe le cœur pour faire comprendre à la plante qu'elle n'a pas non plus fait sa graine et qu'elle continue sa floraison. On enlève le cœur.
Sur pied, donc vous enlevez les pétales, ouais. Sur pied, d'accord.
Voilà. Et je les cueille aussi en boutons de rose pour les faire sécher et faire des tisanes que de boutons de rose. Ce qui va être différent de comment fonctionnera Guilhem avec la distillation de rose.
J'imagine que pour chaque plante, il y a peut-être des températures précises de cuisson pour respecter certaines molécules, par exemple, ou c'est plutôt rustique.
Ah ben là, l'alambic est en fait c'est un alambic à feu nu en cuivre et qui enfin du coup qui c'est à pression atmosphérique, il n'y a pas de surpression, c'est des températures plutôt douces quoi, mais donc du coup c'est des flux de vapeur pas très très chaude et du coup c'est plutôt conservateur pour les molécules des plantes. Après ça dure plus longtemps. C'est-à-dire que c'est, contrairement à des distillations sous pression à haute température, bah c'est des distillations qui peuvent vite prendre quelques heures. Et voilà. Mais du coup, c'est ça un peu le processus d'extraction. Effectivement, il y a des molécules plus ou moins fragiles, hein, mais globalement, ouais, ça marche.
Quand vous parlez de production bio, est-ce que vous utilisez quel... quel combustible pour chauffer ces alambics ?
Ah oui, alors aujourd'hui, moi je distille dans un espace, un rez-de-chaussée dans le centre de Die. Du coup, je peux pas trop travailler avec pour l'évacuation des fumées avec du bois aujourd'hui. Bon, c'est mon ambition hein, de déménager l'alambic pour aller dans un espace couvert mais ouvert où je pourrais utiliser un autre combustible. Donc aujourd'hui, par défaut, effectivement, c'est encore du gaz. Mais j'espère que l'année prochaine, vu que le déménagement est déjà plus ou moins programmé, il pourra y avoir. Un petit rocket stove et puis du bois pour le chauffer l'alambic.
Laetitia, pareil, le bois.
Alors moi je fais pas de distillation, donc du coup
non
j'ai
pas de chauffage.
Non, il y a pas de chauffage.
Et par rapport aux roses, aux pétales de rose, qu'est-ce que vous faites avec donc...
Alors moi je les fais sécher. Donc du coup moi j'ai quand même dans mes séchoirs j'ai quand même des ventilateurs et des déshumidificateurs. Pour accélérer le séchage, ce qui permet de conserver mieux les couleurs et les propriétés des plantes. Donc voilà, c'est pareil, des humidificateurs et ventilateurs, ils fonctionnent. Alors, quand c'est chez moi, c'est à l'électricité, enfin sur le réseau électrique. Et du coup, on est en train de mettre en place un séchoir à côté de la parcelle qui, lui, est alimenté par l'énergie solaire. Donc, panneaux solaires et batteries et des humidificateurs qui sont reliés à cet aménagement-là.
Je revenais par rapport à la crise économique et énergétique. Est-ce que vous avez senti peut-être une augmentation de la facture au niveau gaz ? Ça, c'est pas trop observé encore.
Pas encore trop. Après, c'est sur le. Moi, tout mon flaconnage se fait dans du verre, des flacons en verre, depuis la sortie de l'alambic, enfin du refroidisseur jusqu'au produit, du coup, au flacon. Et c'est vrai que c'est quand même un matériau qui, en général, réagit très fort, comme c'est beaucoup, principalement du gaz hein, qui permet de produire le verre. Du coup, ça, j'attends une montée de facture, oui, sous peu.
Qu'est-ce que je voulais savoir aussi le conditionnement de vos productions. J'imagine que ce sont des flacons pour vous, Guillaume, et pour vous, Laetitia, ce sont des sachets, des pochons peut-être. Est-ce que vous y mettez aussi une certaine esthétique pour promouvoir ce produit ? Est-ce que vous avez affaire avec des artistes locaux aussi qui pourraient orner un peu vos productions ?
Alors moi je suis graphiste à la base, donc en effet il y a un côté, j'avais besoin de concevoir le packaging en fonction de, enfin voilà, que ce soit beau et que ça, en tout cas que ça me plaise à moi quoi, et pour aussi que ce soit des petits cadeaux faciles à offrir et que ce soit alléchant de regarder le paquet et que les plantes soient bien séchées pour qu'il y ait des belles couleurs. Après, là, on peut parler peut-être de pierre aussi sur le marché qui gueule de bois avec ses gueule des bois, pardon, avec ses liqueurs, qui du coup lui a travaillé avec une sérigraphiste locale qui lui a fait toutes ses étiquettes et en effet, on peut voir la qualité d'impression et comment c'est flashy et comme elles sont magnifiques ces bouteilles. Donc voilà. Et toi, Guillaume, je sais pas ce que tu
Et Guilhem, par rapport aux flacons, est-ce que ce sont des contenants dont vous vous fournissez régulièrement, ou alors est-ce que vous opérez peut-être aussi la récupération de ces flacons pour pouvoir les réemployer ?
Oui, oui, ben j'ai mis ça en place il y a 2-3 ans. Ouais. L'idée, c'est de réutiliser au maximum. Donc, j'invite toutes les personnes qui m'en prennent à les ramener pour voilà, ça rentre dans un cercle de nettoyage qui derrière me permet de les réutiliser. C'est bien le but. Après, c'est une petite production, donc aujourd'hui voilà, c'est pas, je suis pas à l'échelle. Par contre, je pense à après l'orage aussi qui fait partie du coup du marché du lundi et qui eux, je crois, ils sont dans un dispositif créé par une SIC ou une SCOP ma bouteille s'appelle Revient, qui est basé à Chabeuil, je crois, veux pas dire de bêtises, mais et je sais que voilà, il y a des points de collecte aussi à la Carline, et je sais que eux ils travaillent comme ça, donc ils réutilisent aussi beaucoup leurs emballages, et eux pour le coup ils ont beaucoup plus de volume et de débit.
C'est pareil pour les autres producteurs, là je vois fromage de chèvre et yaourt, parfois ça nécessite des bocaux, donc retour aussi de ces bocaux pour les réemployer. La farine et les dérivés, ça c'est Léa qui propose ça. C'est des productions qui émanent du Diwa aussi essentiellement.
Oui, alors la farine, donc Léa, elle viendra vendre, c'est la farine de la ferme des Gabeliers à Mont-Laure. Donc de Thomas Brun. La question était, du coup, oui, c'est local, oui, bien sûr, c'est une farine de petite épaule, de sarrasin et de blé, ouais. Et du coup, oui, c'est fait à Mont-Laure, donc c'est bio et local.
Du miel également, ça, il y aura des propositions, là, je crois avoir 3 producteurs présents. Oui, ou alors ils sont associés.
Voilà, il y a une personne qui est Sébastien, qui a une entreprise, et Willy et Arnaud, qui ont une autre entreprise. Donc ils feront une semaine sur deux, ou enfin ils vont s'arranger entre eux. Willy, c'est un ancien musher de Chapia aussi, donc c'est aussi une sorte de reconversion, parce que vu qu'il n'y a plus trop de neige en ce moment, les mushers, il faut qu'ils trouvent d'autres alternatives. Donc Willy démarre une production de miel sur, en effet, beaucoup Chapia, et puis il fait de la transhumance aussi vers Vassieux, il me semble, enfin en tout cas le Vercors.
Vous discutez entre vous, producteurs, par rapport au miel, est-ce qu'il y a toujours ces difficultés d'extinction hein, des abeilles? Il y a une grosse inquiétude pour ça à cause de pollution. Est-ce qu'il y a quand même une préservation évidente sur le Diwa, peut-être moins atteinte pour savoir si vous entretenez des discussions sur l'état des lieux de temps en temps, sur les productions, les difficultés.
Oui, après, à savoir s'ils ont fait des comparatifs, enfin, s'ils sont capables même de dire que par rapport à un autre endroit, c'est mieux dans le Diwa, ça. Moi, je ne m'avancerai pas là-dessus. Peut-être, hein, même certainement, mais ça serait à eux, eux seraient plus à même d'en parler.
Et Sébastien, il est, je sais plus si tu l'as dit, il produit à Valdrome, et du coup, voilà, c'est encore un autre paysage.
Pas très agricole, plutôt sauvage.
Ouais, plutôt sauvage, donc ouais. Je ne sais pas s'il rencontre ce genre de problème. C'est ce qui revient souvent, c'est ici, c'est quand même les chocs climatiques, le fait que certaines années, la douche au printemps et du coup, il n'y a pas de miel là. C'est un peu ce genre de choses. Souvent, ça ressort au marché. Donc, c'est vrai que ce marché, ça a aussi l'intérêt, c'est que comme il est organisé avec ce collectif de producteurs et qu'on se retrouve, c'est aussi un temps où... ça fait du bien de se retrouver pour un coup dans la saison. C'est souvent il peut y avoir des phases un peu solitaires dans la production, et c'est la course, et du coup c'est aussi un temps un peu de retrouvailles qui fait du bien. Mais du coup on parle pas toujours que des problèmes, mais aussi de ce qui fait plaisir et de trinquer.
Mais par exemple, moi j'ai vu Willy il y a quelques jours qui disait que par exemple par rapport au mois d'avril très chaud qu'il y a eu, tout est parti un peu en, en force, toutes les plantes étaient là, le châtaignier était là, donc il a transhumé ses ruches justement, et puis après derrière il y a eu un coup de froid, donc pendant 3 semaines en fait il n'y a rien eu, il n'y a pas eu du tout de production, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ce soit là, et donc du coup, mais voilà, c'est un métier agricole, hein, comme, enfin, ça fait plus partie de l'agriculture, et du coup il faut qu'on s'adapte aussi à tout ce qui se passe au niveau météo.
Il y a aussi, donc, vous parliez de la bière après l'orage, il y a aussi les clairettes et les vins de la cave David Botin.
Oui, tout à fait.
Et puis, donc, les préparations lacto-fermentées de Marie-Madeleine, je crois qu'on peut déjà voir au marché les mercredis, samedi.
Oui, c'est ça.
C'est ça, on la retrouve sur les deux marchés, mercredi et samedi, Marie-Madeleine, de plein vent, avec son vélo. Elle fait tous les marchés en vélo. Marie-Madeleine, c'est vraiment une... Elle trimballe son stand en vélo.
Motivée.
Ah oui, elle est très motivée. Même sous les orages, parfois elle rentre.
Oui, et puis elle vient de...
Molière.
Molière-Glandas.
Ouais. Ouais. Ouais.
Les tisanes, ça vous concerne pour les princesses sauvages, Laetitia. Et avec des sels aux plantes. Donc, quel processus s'opère pour ces sels aux plantes?
Alors oui, alors le sel du coup il n'est pas local, pour le peu. Moi là-bas je suis originaire de la région nantaise, donc voilà, j'ai rencontré des producteurs de Guérande notamment. Donc c'est du sel de Guérande, et auquel j'associe les plantes cueillies dans le Vercors. Donc il y a à la fois sel aux plantes, il y a à la fois aromates aussi, je propose aussi des aromates sans sel pour ceux qui mangent moins salé.
À la suite, il y aura aussi 5 stands d'artisans qui tourneront d'une semaine à l'autre. Quel type d'artisanat sera-t-il proposé?
Alors, c'est plutôt des locaux aussi. Et alors, dans le partenariat avec la mairie, le collectif des Merlemoqueurs gère vraiment tout l'aspect producteur, paysan, bio et locaux. C'est vrai que le recrutement, entre guillemets, des artisans se fait plutôt par la mairie, en direct, par Dorine. Et c'est quand même plutôt des créateurs qui cherchent, dont la production a du sens, soit des gens qui font des bijoux, des...
Savons aussi.
Des savons.
Poterie,
oui. Enfin, il y a eu plusieurs...
Des fours solaires aussi.
Ouais.
Oui.
C'est ce qu'on a vu l'année dernière. Donc,
ils sont installés, j'ai vu, ils ont leur atelier rue Anglaise, pour ce qui est des fours solaires. J'ai vu le monsieur là, au dernier vide-grenier, samedi dernier. Et il y aura aussi une musique pour accompagner ce moment, ce début de soirée. Et est-ce que vous avez déjà une piste pour ce prochain lundi donc?
Alors lundi prochain, ce sera Emma. La fille de Dominique Dupin de Barsac qui joue de l'accordéon, qui viendra avec une de ses collègues et qui joue très bien et qui nous a déjà ambiancé quelques lundis soirs. Donc bienvenue Emma, on est très content de la retrouver. Et vous pourrez retrouver, pour les programmations musicales seront indiquées sur notre compte Facebook, Le Merlemoqueur tout attaché 26. Où chaque semaine nous tiendrons informés des prochaines animations musicales.
J'ai omis donc cette fameuse assiette apéritive avec des productions locales. Oui.
Peut-être juste pour compléter sur les animations musicales. Il y a pas mal de groupes locaux qui sont là, donc qui viennent ambiancer, des fanfares, des groupes folk qui font danser. C'est vrai que c'est assez animé en général. Mais il y a aussi des groupes de passage qui viendront, qui sont en tournée et qui viendront. Et juste, je rebondissais là-dessus pour dire qu'il reste encore des créneaux donc pour les artistes qui souhaiteraient venir animer un lundi. N'hésitez pas à venir vers nous.
Donc soit de se rendre sur le marché, ou alors si vous avez des coordonnées pour vous contacter.
Ouais, ils peuvent venir nous voir sur le marché, ce sera une occasion. Et sinon, j'ai.
Juste pour préciser, c'est au chapeau. C'est vrai qu'on n'est pas toujours très à l'aise avec ça. Et enfin voilà, qu'eux ont aussi besoin de vivre de leur musique. Mais enfin voilà, on a considéré qu'on essayait de tous être solidaires, nous aussi en tant que producteurs et petits producteurs. Là, En plantes médicinales, on ne vend pas toujours non plus des masses et des masses sur ce marché. Donc du coup, voilà, on s'est dit que chacun essayait de participer à cet événement, le faire vivre. Et du coup, les musiciens, ouais, c'est une base qui est... Enfin, ils se rémunèrent sur le chapeau.
Et on leur offre une boisson et une assiette.
Et justement, cette assiette apéritive, il y a aussi cette production proposée par Valambule. C'est un food truck ou un producteur ?
Non, c'est pas un food truck. En fait, c'est Valérie qui nous a rejoint. Je pense que c'était déjà à Chapia, il me semble, les premiers marchés qu'elle a fait. Et qui est venue aussi un peu au départ tester une activité de cuisine légère et qui est restée. Et qui aujourd'hui, l'idée, c'était aussi de valoriser les produits des producteurs du marché. Et donc, elle compose des assiettes à partir de nos produits pour les mettre en valeur. Et donc, c'est effectivement, c'est des assiettes apéritives qui viennent accompagner des boissons. Et donc, c'est ça. Enfin, c'est une forme de food truck, en fait.
Quelques conseils pratiques à donner, peut-être, pour les visiteurs. Est-ce que, par exemple, les cartes bancaires sont prises en compte ou alors il vaut mieux venir en espèces ?
Alors, tous les stands ne sont peut-être pas équipés de lecteurs de cartes bancaires.
Donc, mais de plus en plus.
Mais de plus en plus, c'est vrai que c'est le cas. Donc, c'est bien d'avoir un peu d'espèces et puis une carte comme ça. Réserver peut-être le liquide pour ceux qui n'en ont pas. Mais sinon...
Il y a un point de retrait bancaire pas très loin là, au niveau du Super U, donc ça pose moins de soucis qu'à une époque où il n'y était pas.
Voilà, donc ce sera tous les lundis de 17h à 20h, place Saint-Pierre, devant la cité scolaire.
Voilà, et on vous attend nombreux.
Et avec cette chaleur, vous prévoyez... De quoi vous protéger du soleil un peu ?
Oui, on a les parasols, puis on a Christelle avec ses glaces.
Ouais.
Venez manger une glace au marché de Chapi, au marché paysan.
Et puis pour connaître un peu plus en information, vous avez une page Facebook, hein, je crois.
Oui, alors je redis le lien, c'est Le Merle Moqueur 26, tout attaché, où on fera paraître les informations, la programmation musicale d'une semaine sur l'autre.
Et alors ce titre, Merle Moqueur, pourquoi celui-ci ?
C'est sorti d'un essorage de méninges collectif et je crois que c'était un peu aussi en référence au temps des cerises. Hein.
Oui, je pense.
C'est notre la petite âme de rebelle de Chapia de l'époque qui a germé.
Laetitia et Guilhem, merci beaucoup d'être venus sur Air du Bois pour nous parler donc de ce marché des producteurs bio et locaux.
Merci infiniment.
Merci.
Bonne fin de journée. Au revoir.
Quelle journée. Ce soleil tiède et clair qui dore la gueule des canons. Cette odeur de bouquet. Le frisson des drapeaux. Le murmure de cette révolution qui passe tranquille et belle comme une rivière bleue. Ces tressaillements, ces lueurs, ces fanfares de cuivre, ces reflets de bronze, ces flambées d'espoir, ce parfum d'honneur. Il y a là de quoi griser d'orgueil et de joie l'armée victorieuse des républicains. Ô grand Paris, lâche que nous étions. Nous parlions déjà de te quitter et de nous éloigner de tes faubourgs qu'on croyait morts. Pardon, patrie de l'honneur, cité du salut, bivouac de la révolution. Quoi qu'il arrive, dussions-nous être de nouveau vaincus et mourir demain. Notre génération est consolée. Nous sommes payés de 20 ans de défaite et d'angoisse. Clairons, sonnez dans les vents. Tambours, battez aux champs. Clairons, sonnez dans les vents. Tambours, battez aux champs. Embrasse-moi, camarade, qui a comme moi les cheveux gris. Et toi, marmot, qui joue aux billes derrière la barricade, viens que je t'embrasse aussi. Le 18 mars te l'a sauvé belle, gamin. Tu pouvais, comme nous, grandir dans le brouillard, patauger dans la boue, rouler dans le sang, crever de faim et crever de honte, avoir l'indicible douleur des déshonorés. C'est fini. Nous avons saigné et pleuré pour toi. Tu recueilleras notre héritage, fils des désespérés. Tu seras un homme libre.
Kicked in the door, and we began to think there'd been a cold winter, the coldest of all, feeding on rats and dogs since the fall. But with March came the thaw, the rise of us all, claiming the streets and the old bourgeois halls. In this thick city with poverty, sorrow, high in the hills and down the town's marrow, but with love in its heart, fire in its spirit, after years of hard struggle, our time is here. From shouts forward to violence, cannons to accordions, tactical skills and our luxurious intentions. Luxury to live instead of survive, the luxury to fight even if we may die. Our life is this, to stroll, to ponder, take in the theater, to work then meander, at least for a moment, while bored I sing songs. Change spirit, how it changed the whole world, and let our people hear. We will never forget now, and let our energy rise, and let all the children learn.
Oh, come you